France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Histoire de la diététique, quand la science s'invite dans l'assiette, car le lien entre la santé, la bonne santé et l'alimentation est ancien, et cela malgré l'évolution des considérations sur le fonctionnement de la digestion. Mais comment la diététique est-elle née en tant que science? À la suite de quoi et pour nous conduire vers quoi? La nutrition? Oui, pourquoi pas? Le cours de l'histoire, une émission à consommer sans modération qui obtient, je vous le dis, la lettre A au Nutri-Score.
Si tu veux le courage du lion, mange comme un lion. Si tu veux l'indolence de la génisse, mange comme une génisse.
Où sont les poulards? J'ai faim!
À travers ce qu'on mange, n'est-ce pas, c'est toute la création de son être et de son milieu social et de sa société, toute sa politique qui se bâtit.
Avec le poisson, c'est toujours un légume à la con, riz ou endive.
Avant d'être chassé du paradis, on mangeait que des fruits et des noix. Donc de ce fait, on n'a pas besoin de viande.
C'est pas très bon.
C'est même très mauvais.
Je m'adresse donc à tous ceux que la viande intéresse. Il n'existe qu'une solution au problème du bœuf.
Le cours de l'histoire.
La légume.
Xavier Mauduit.
Et une émission tout en équilibre, bien sûr. Bruno Loriot, bonjour.
Bonjour, Xavier.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Tours, président de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Vous arrivez avec une histoire de la diététique d'Hippocrate au Nutri-Score, publiée aux éditions du CNRS. La diététique. La diète, quand on a dit diététique, qu'a-t-on dit? C'est quoi la diététique?
C'est un peu effectivement la difficulté, c'est-à-dire que le sens du terme, il peut être double. D'ailleurs, c'était reconnu anciennement au Moyen-Âge, on disait qu'il fallait entendre la diète au sens large et au sens restreint. Alors au sens restreint, c'était le régime alimentaire, le régime qui doit s'adapter à l'état de santé, qui peut servir d'ailleurs à combattre les maladies comme à maintenir en bonne santé. C'est un double aspect curatif et préventif. Mais il y avait aussi une diète au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des conduites qui permettent de réguler le corps, qui passent évidemment par l'alimentation, mais qui peuvent passer également par l'exercice, par la veille et le sommeil, la gestion un peu de l'environnement, où plante-t-on sa chambre, où dort-on, et même par les relations sexuelles. C'est ce qu'on a appelé, dans tout un moment très long d'histoire de la diététique, les choses non naturelles. Galien disait des choses nécessaires. Donc c'est tout cet ensemble que la diététique, au fond, anciennement, pendant des siècles, voire pendant des millénaires, s'est attachée à réguler, à régler.
Avec Galien, vous nous conduisez au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais vous allez encore plus loin, puisque le sous-titre de votre ouvrage, Bruno Loriot, c'est d'Hippocrate au Nutri-Score. Et avec Hippocrate, ici, nous avons presque une logique, une évidence, le lien fait entre ce que nous mangeons et la santé. C'est quelque chose de très ancien.
C'est quelque chose de très ancien. Il y a même un texte d'Hippocrate, en tout cas du corpus hippocratique, qui s'appelle « De l'ancienne médecine », qui nous explique qu'au fond, à l'origine, la médecine est née au problème de l'alimentation des malades. Il était évident que les malades ne pouvaient pas manger exactement ce que mangeaient les personnes saines, mais dans quelle mesure? Donc ça a été ce travail-là qui, d'après ce texte, aurait donné lieu à la médecine. Alors, évidemment, c'est très difficile à vérifier. Ce qui est sûr, c'est que Hippocrate est le premier à produire un discours cohérent, articulé sur le sujet, avec notamment un texte qui s'appelle Diaita, c'est-à-dire du régime, et qui nous décrit au fond les propriétés diverses de tous les aliments. Mais au fond, est-ce que ça a commencé à Hippocrate? On ne sait pas très bien. Dans l'Antiquité même, on pensait que les Pythagoriciens, donc quelques siècles avant Hippocrate, et Pythagore lui-même s'était beaucoup intéressé à la médecine, en effet, aux interdits à la médecine et, pardon, à l'alimentation. Les interdits alimentaires étaient quelque chose de très important pour les pythagoriciens. Il est bien possible qu'ils aient développé un discours cohérent. On a quelques éléments sur la nécessité de tenir compte de la médecine dans la gestion de son corps et dans la gestion de sa santé.
Mais qu'il s'agisse d'Hippocrate, qu'il s'agisse de Galien, la réflexion sur les aliments que nous pouvons absorber et la bonne santé et se construit en parallèle de la réflexion sur comment ça fonctionne à l'intérieur aussi, sur la digestion.
C'est ça, C'est ça. Alors, sur la digestion, il y a des débats dans l'Antiquité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les textes... Moi, je suis un historien, donc je travaille sur des textes. Des textes qui nous sont arrivés, malheureusement. Quand je sais qu'il y a eu d'autres textes, je le signale, mais enfin bon. Et ces textes qui nous sont arrivés, ils sont très peu nombreux par rapport à ce qui a été produit. Donc, ce qu'on peut savoir, c'est peut-être des éléments quelquefois indirects. On sait qu'il y a eu un grand débat sur la manière dont on fallait concevoir la digestion dans l'Antiquité. Il y a eu un grand débat entre Galien et un certain nombre d'autres savants de l'école alexandrine, pour savoir si la digestion, c'était un phénomène, un processus de cuisson, disait Galien, donc un processus qui constituait à chauffer les aliments à l'intérieur du corps. Il fallait commencer par manger plutôt des aliments chauds et cuits, disait Galien. Le cru, c'est terrible. Enfin, ça empêche la digestion, puisque précisément, la digestion est une cuisson. Donc ensuite, il y avait une série de cuissons. Alors Galien a dit 3 ou 4, je ne me souviens plus très bien. Après, il y en a d'autres qui ont dit 5, il y a eu un perfectionnement. Mais enfin, en gros, c'était une succession de cuissons. Un processus que plus tard, on appellerait chimique d'une certaine manière. Alors que certains savants alexandrins, Erasistrate par exemple, pensaient que la digestion était un processus mécanique. C'était quelque chose qui consistait à broyer les aliments, y compris à l'intérieur de l'estomac, et que peu à peu, les aliments étaient réduits en une sorte de bouillie, en quelque sorte, et du coup, ils pouvaient servir, c'était ça l'idée, évidemment, à nourrir, à, en quelque sorte, alimenter les organes, la peau, enfin tout, et puis à se transformer ensuite en excrétions diverses. Voilà. Donc c'était ça, tout. Donc c'était central, au fond. Manger, c'était central, parce que c'était de là que venait la vie, et de là que venait le fonctionnement du corps.
Ah oui, parce que s'il y a une conception de la digestion comme une cuisson avec Galien, on comprend bien qu'il y a de la diététique, vous nous l'avez dit, manger cru, c'est pas l'idéal parce que ça ralentit la cuisson. Mais si c'est mécanique, nous mâchons, première étape, mais il y a de la diététique parce que si nous prenons une bouillie, elle est déjà pré-mâchée, donc elle sera remâchée, donc elle va se digérer très facilement.
Oui, c'est ça. C'est ça même, c'est ça. Alors, et bien entendu, toutes ces personnes, qu'ils soient mécanistes ou chimistes, si on veut dire, ça comme ça, ils partagent une idée fondamentale, c'est que les aliments sont un composé de qualités premières, de chaleur et d'humidité, qui, ce composé de qualités premières, il détermine aussi les humeurs, c'est-à-dire les fluides qui circulent dans le corps, il détermine aussi les éléments qui constituent l'univers, donc il y a une sorte d'homologie, on va dire, et de correspondance entre le microcosme qu'est le corps et le macrocosme qu'est l'univers, d'une certaine manière. Donc, c'est très important, évidemment, ça va être toute l'œuvre des diététiciens. Alors, qui sont pas... aujourd'hui, être diététicien, c'est faire une spécialité assez précise. À l'époque, en fait, les plus grands médecins sont aussi des diététiciens, s'occupent de diététique, que ce soit Hippocrate, Galien, etc. Donc toute leur œuvre, ça va être de déterminer précisément quelles sont les combinaisons de qualités premières, chaleur, humidité, chaleur et humidité, donc, qui permettent, dans les aliments, d'aider à la conservation d'un tempérament, c'est-à-dire d'une sorte d'équilibre, ou au contraire de combattre donc un excès d'humeur qui entraîne une maladie.
Et le chaud, le froid, le sec, l'humidité, les humeurs, la théorie des humeurs, il faut que tout cela soit en équilibre. Bruno Loriou, quand vous étudiez ces textes, parce que vous l'avez dit, et c'est juste de le rappeler, il faut le rappeler sans cesse, vous êtes historien, donc on travaille sur du document.
Malheureusement.
Et sur ce qui reste. On trouve dans ces textes anciens l'idée que tel aliment est adapté à telle personne dans tel état de santé. Alors la viande, l'huile, le gras, c'est bien distingué comme cela.
Oui, alors c'est même beaucoup plus précis que ça. Donc en matière de viande, ce que nous appelons viande aujourd'hui, donc il va y avoir une différence assez nette entre par exemple les volatiles et puis les quadrupèdes. Pourquoi ? Parce que les volatiles... Donc les volailles, ça peut être aussi des gibiers ailés, ils viennent de l'air, viennent du ciel, viennent de l'air. L'air est chaud et humide. Tandis que les quadrupèdes, ils viennent plutôt de la terre. La terre, elle est froide et sèche. Donc, alors, dans des proportions différentes, évidemment. On va considérer que certains sont particulièrement froids et secs, certains sont particulièrement chauds et humides, et d'autres le sont modérément. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi des degrés, des intensités. Donc il y a des calculs qui peuvent se faire hein, à certains moments, surtout à partir du moment où ces textes médicaux passent dans le monde musulman, à travers des textes et des traductions arabes, on a une réélaboration avec quelqu'un, par exemple, comme Al-Kindi, qui est un mathématicien, qui va s'intéresser aux qualités des... aux intensités, aux degrés d'intensité, pardon, des qualités premières qui se trouvent dans les aliments. Donc, c'est pas la même chose, si vous voulez, de prendre un aliment extrêmement chaud et sec, comme par exemple une épice très forte, du genre poivre ou... poivre long, graines de paradis, et donc voilà, que de prendre un aliment modérément chaud, et chaud et humide même, qui n'a pas les mêmes propriétés comme, par exemple, le sucre.
Tout simplement, oui, parce qu'il y a cette lecture des textes de l'Antiquité qui passe par le monde arabe, enrichie, traduite, qui ne sont pas oubliés parce que redécouverts sans cesse, adaptés à des moments, mais sachant que durant tout le Moyen-Âge, bien sûr, ces théories de l'Antiquité demeurent, la théorie des humeurs, ces réflexions-là. Ce que j'entends ici par le mot diététique et diète et donc régime, c'est le régime. Et vous nous l'avez dit, Bruno Lourioux, il y a l'association de l'alimentation à la maladie, presque quelque chose d'originel. Peut-on dire que le régime est appliqué aux gens malades? Dans un premier temps, l'idée de demander à des gens de respecter une certaine règle alimentaire, ça s'applique aux malades?
C'est ce que disent les médecins, en tout cas. Hein. Quand on regarde les textes médicaux, c'est comme ça que c'est formulé. La diététique est un des trois éléments thérapeutiques, en fait, avec la chirurgie et avec la pharmacologie. Donc c'est ça son point de départ. Après, avec Galien notamment, ça va être... quelque chose qui va servir aux gens sains pour les maintenir en bonne santé. Mais avec d'autres pratiques, avec le bain, avec l'exercice, avec les massages, tout ce qui est les thérapeutiques douces, d'une certaine manière, ou les pratiques douces.
Ce qui est très important dans ce que vous nous dites, hein, Bruno Lourioux, c'est que l'idée de boire du bouillon quand on est malade, nous le comprenons bien, et là nous avons un régime, mais que la diététique s'applique aussi aux gens qui sont en bonne santé, parce que pour rester en bonne santé, il faut bien manger.
C'est ça, il faut manger selon l'équilibre qu'on a atteint. C'est-à-dire, si on est, par exemple, un mélancolique, on va manger des mets qui sont mélancoliques si on est en bonne santé. En revanche, si on se trouve malade du fait d'un excès d'humeur mélancolique, donc froide et sèche à l'intérieur de son corps, eh bien à ce moment-là, il faut la combiner, il faut utiliser des aliments qui soient contraires.
La viande, c'est plutôt chaud.
Alors la viande, c'est plutôt chaud, mais il y a des viandes qui sont moins chaudes que d'autres et plutôt froides, en fait, comme le porc, par exemple. Donc si on est un mélancolique, pourquoi pas du porc, pourquoi pas des lentilles? Pourquoi pas un petit salé aux lentilles, par exemple?
Ah ben voilà, vous nous donnez en plus des idées de recettes, ou sinon vous mettez un peu toutes les viandes.
Où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les rôts, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèvres, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice! Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poirés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit!
C'est le film Les Visiteurs, bien entendu, hein, de Jean-Marie Poiré en 1993, avec ici le besoin peut-être de déconstruire des représentations. Nous sommes au Moyen-Âge et nous avons l'idée que, en tout cas pour les plus riches, il y a une forte consommation de viande. Est-ce que cela fait partie des préoccupations des gens qui écrivent? Vous voyez, je ne dis pas les médecins, je ne dis pas les diététiciens, les gens qui s'intéressent à l'alimentation liée à la santé.
Alors... la viande, effectivement, en tout cas pour les derniers siècles du Moyen-Âge, le XIVe et le XVe siècle, est effectivement beaucoup consommé au Moyen-Âge, incontestablement, notamment dans le milieu aristocratique, mais pas que. Beaucoup plus qu'elle ne le sera à partir du XVIe siècle, du XVIIe, XVIIIe. On mange davantage de viande, disons, parmi les contemporains de Jeanne d'Arc que parmi les contemporains de Louis XIV. Ça, c'est incontestable. Puis après, la viande va remonter. Vous savez, elle va atteindre des chiffres absolument faramineux à l'époque contemporaine. Donc on est dans des périodes carnassières, donc c'est sûr. Et la viande constitue un aliment valorisé, alors pas par les médecins, justement. Enfin, pour les médecins, c'est quelque chose d'ordinaire, la viande, mais pas plus qu'autre chose, d'une certaine manière. Mais pour la population, enfin en tout cas pour les élites sociales, c'est incontestablement valorisé, au point que la pénitence maximale, c'est de s'en passer.
Le carême ?
Oui, par exemple. Il s'agit de s'en passer. Ça, c'est Thomas d'Aquin qui nous explique. Bah, si on devait manger de la viande en carême, ça voudrait dire qu'on devrait s'accorder ce qui est, au regard des systèmes de valeurs de l'époque, ce qu'il y a de meilleur, de plus délicieux. Et donc, il faut au contraire s'en passer. Et il y a un débat à l'intérieur du monde religieux, du monde monastique, disons, pour savoir si véritablement on peut se passer, on doit se passer de toute viande. Au départ, on a dit, ah oui, mais bon, les volatiles, justement, les volailles, ils n'ont pas été créés le même jour que les quadrupèdes, ils ont été créés le même jour que les poissons. Donc, puisqu'on peut manger des poissons, pourquoi on ne pourrait pas manger des volailles? Donc, il y a eu un débat à l'époque carolingienne qui a été tranché dans le sens un peu rigoriste. Donc, les volailles sont considérées à égal. Après, dans le milieu monastique, il y a des gens qui ont dit, ah oui, mais peut-être que, par exemple, quand on mange de la viande hachée, c'est tellement réduit, il n'y a plus les muscles, il n'y a plus rien, c'est de la bouillie. Peut-être qu'au fond, ce n'est pas de la viande. Donc là, il y a des débats qui continuent, qui nous montrent que dans le milieu aristocratique, c'est toujours une valeur, que dans le milieu monastique, c'est quelque chose encore de discuté. Donc c'est une référence à laquelle les médecins doivent s'adapter, bien entendu, quoi qu'ils pensent, hein. Donc, ils pensent qu'il y a des viandes faciles à digérer, ils pensent qu'il y a des viandes difficiles à digérer. Ça dépend un petit peu aussi de votre catégorie sociale. Hein. Le fait que vous mangiez beaucoup ou pas dépend aussi de vos occupations. Et par exemple, un paysan ou un travailleur de force, on va considérer qu'il peut manger beaucoup de viande, par exemple, très nourrissante, du type viande de porc, par exemple, ou viande de bœuf, par exemple, et que, par exemple, ça pose une question aux théologiens qui disent, ben dans ce cas-là, un travailleur de force, s'il a besoin vraiment de beaucoup manger, ben, il peut être dispensé dans certaines limites du carême. C'est ce qu'ils nous disent.
Au moment d'écrire une histoire de la diététique, Bruno Loriot, vous êtes donc confronté à de la théologie, à de la médecine évidemment, et à des faits de société, parce que ce qui s'impose parfois aussi, c'est le positionnement social. Et on l'entend bien quand nous parlons de l'alimentation dans une société antique, médiévale et aujourd'hui encore. On sait bien qu'il y a des écarts considérables.
Tout à fait, tout à fait. Alors, quelques médecins en parlent. Je dirais de l'extérieur, parce que leur clientèle principale, des médecins en tout cas qui ont écrit, nous, on a les médecins qui ont écrit. Hein. Donc ils sont déjà un peu des cadors. C'est déjà intéressant, hein. Encore une fois, hein, c'est les meilleurs de leur discipline qui traitent aussi de diététique. Pour le Moyen-Âge, par exemple, Arnaud de Villeneuve, c'est un personnage considérable, qui est à la fois un théologien et un médecin, il s'intéresse très fort à la diététique. Il construit des régimes de santé adaptés à tel ou tel, par exemple au roi d'Aragon. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi que dans la société, il y a des conduites alimentaires différentes et qu'il faut évidemment en tenir compte. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Je pense que cette diététique ancienne, elle est peut-être plus souple à bien des égards que la diététique actuelle, je me permets de le dire, hein, j'espère que les nutritionnistes d'aujourd'hui ne vont pas m'en vouloir, c'est-à-dire qu'elle cherche moins à imposer des normes qu'à trouver le bon équilibre qui correspond à chacun et à s'adapter en plus au désir, au plaisir, au goût de chacun, fût-il contraire à ce qu'il devrait manger.
Mais parce que vous avez dit cette chose très importante, Bruno Loriot, ça s'adapte à tel ou tel.
C'est ça.
L'idée de construire une diététique ou un régime, pour le dire plus simplement, adapté à une personne selon sa condition sociale, son train de vie, ses besoins et simplement le son état de santé.
Oui, c'est ça. Et puis le moment de sa vie. Le moment de sa vie, est-ce qu'il est âgé, pas âgé, dans quelle situation il se trouve, est-ce qu'il habite dans le nord, dans le sud, etc., etc. Tout ça joue.
C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Hein. Combien nous allons passer de cette attention individuelle à quelque chose de beaucoup plus collectif. Et c'est en quoi votre histoire de la diététique, c'est l'histoire de la diététique, bien sûr, mais c'est aussi une histoire sociale, fortement sociale. Dans le même temps, Bruno Loriot, il y a toujours ces considérations sur la manière dont s'opère la digestion. Alors, si nous nous situons au Moyen-Âge, qu'est-ce qui l'emporte ? Est-ce l'idée d'un processus chimique ou l'idée d'un processus mécanique ?
Bah, le Moyen-Âge est galénique. Hein. Le Moyen-Âge est galénique, d'autant que en fait, les textes qui ont été traduits depuis l'arabe sont des textes souvent galéniques, soit de Galien lui-même, soit de supporters de Galien. C'est même renforcé. Donc c'est très, très galénique. Donc c'est un peu le nec plus ultra. Enfin, c'est vraiment la base. Et puis, alors là, je m'avance au-delà du Moyen-Âge. Je ne sais pas si on peut déjà...
Ah, mais allez-y, allez où vous voulez.
Au XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle, on voit brusquement le débat sur la digestion est-elle mécanique ou la digestion est-elle chimique ou coction ou chaleur, rebondir, notamment à travers une personne dont je pense vous avez déjà parlé dans une de vos émissions, naguère, c'est-à-dire Ecker.
Oui.
Le médecin qui était parisien, qui était doyen de la faculté de médecine, quelqu'un d'extrêmement original, à bien des égards. Par exemple, c'était quelqu'un qui pensait que la viande, c'était pas sain. Il fallait s'en passer totalement. Donc quelqu'un qu'on peut mettre dans l'histoire du végétarisme, disons, hein, même s'il n'a pas eu de succès, on va dire. Mais il avait aussi, à la suite d'autres, hein, l'idée que la digestion était en fait un processus mécanique. Donc on voit le débat rebondir et prendre une violence extrême. Il y a des échanges de Orion, donc on peut dire. Hein. Il y a même un partisan du mécanisme qui dit que tel traité, tel article d'un adversaire est un papier merdeux. Je sais, c'est, hein, cacata carta. En latin, c'est bien, cacata carta. Et aujourd'hui, on ne dit plus des choses comme ça entre collègues, mais peut-être quoi.
Peut-être, hein. on peut ressortir
des
ça.
Des fois, on le pense, oui.
Mais c'est vrai, merci en tout cas, Bruno Loriot, de renvoyer aux émissions du cours de l'histoire, parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Mon corps est un temple. Conseil du Moyen-Âge pour être le plus beau des jouvenceaux, avec Marilyn Nicou, hein, qui était venue pour nous parler des régimes de santé au Moyen-Âge, par exemple, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Dans cette idée que la digestion est une cuisson, ça c'est galien, ça nous vient de l'Antiquité, et puis il y a cette concurrence du processus mécanique. D'ailleurs, comment s'opère la mise en évidence que ce serait plutôt mécanique ou
non,
chimique ?
Oui, plutôt chimique que mécanique. Les mécaniques n'ont pas vraiment d'arguments.
À part marcher et mâcher, imaginez que l'estomac a des dents.
Alors, ils disent, regardez les rapaces dans leur gésier, il y a des petites pierres, vous le savez, des petits cailloux, donc c'est bien la preuve que c'est mécanique. Bon, c'est un peu léger. Et en vérité, il va y avoir des expériences qui vont être menées au XVIIIe siècle pour essayer de démontrer que c'est... Enfin, qui vont démontrer, semble-t-il, que c'est un processus plutôt chimique. Donc, des expériences qui sont menées justement sur la digestion des oiseaux. où on leur fait ingérer des aliments, des petits filaments de viande introduits dans une sorte de tube. Et à la fin du processus, le tube est intact, tandis que la viande a commencé à se décomposer. Donc il ne s'agit pas, évidemment, d'un processus mécanique. Après, on appliquera, on essaiera d'appliquer ça même au corps même humain. Il y aura des auto-expériences avec vomissements provoqués. Enfin, c'est pas exactement des expériences scientifiques telles qu'on l'imagine aujourd'hui, mais enfin, on avance un petit peu dans ce côté-là, et à partir de la moitié du XVIIIe siècle, milieu du XVIIIe siècle, c'est terminé, et l'encyclopédie, l'article digestion de l'encyclopédie peut dire, voilà, c'est un débat qui n'existe plus, ça a été tranché dans le sens. Alors on dit plus la cuisson, on dit la fermentation, ce qui n'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que ça signifie que ce n'est pas seulement un processus de chaleur, c'est le processus d'une sorte de suc digestif, donc qui est un suc gastrique qu'on va explorer au XIXe siècle.
Voilà, mais parce qu'ici, cette histoire de la compréhension de la digestion peut avoir des incidences sur ce que les médecins conseillent de manger. Je dis les médecins, ce sont toujours les médecins qui parlent ici. Au moment de réfléchir à l'alimentation, il peut y avoir les ouvrages médicaux et les ouvrages de cuisine. Mais peut-être que les deux sont associés.
Alors, la question des rapports entre cuisine et médecine, c'est une question intéressante, mais compliquée. Ce qui est sûr, c'est que dans certains livres de cuisine, il y a des recettes... de médecine pour malades. En général, c'est des gens qui sont convalescents. Donc, par exemple, on va utiliser du sucre, qui est considéré comme un très bon aliment, hein, à l'époque. Et puis, vous avez du côté des médecins qui écrivent spécifiquement des livres de cuisine pour les malades, et donc avec des recettes qui sont précisément calculées, contrairement aux recettes de cuisine basique.
Avec ici ce lien intime entre la cuisine et la littérature.
On avait fait tuer 367 014 de ces bœufs gras pour qu'ils soient salés le mardi gras et que l'on eût au printemps des salaisons à foison. Car le salé, pris au début des repas, fait bien mieux descendre le vin. Les tripes furent copieuses, ainsi que je vous l'ai dit, et si succulente que chacun s'en léchait les doigts. Mais il était difficile de les conserver longtemps, car elles se seraient pourries, ce qui aurait été indécent. Aussi décida-t-on de les manger sans en rien perdre. Dans ce but, on convia tous les citadins de Séney, de Suillé, de La Roche-Clermault, de Vaugaudray, sans oublier ceux du Coudray, de Montpensier, du Guédevède et autres voisins, tous bons buveurs, bons compagnons et beaux joueurs de quilles.
C'est Roland Bertin, formidable acteur, hein, qui nous lisait Gargantua de Rabelais, dont il faut rappeler qu'il était médecin.
Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, la réflexion sur... même si là, on est dans l'ordre du littéraire, bien entendu, hein, la réflexion sur l'alimentation, elle est vraiment consubstantielle de la médecine. Et, mais pas que. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que pensent les gens de leur alimentation, les gens qui ne sont pas médecins. Est-ce qu'au fond, ils résistent? Est-ce qu'ils discutent? Est-ce qu'ils appliquent? Est-ce qu'ils ont leur propre théorie? Et ça, c'est vraiment très difficile à voir avant l'époque contemporaine, disons. Parce qu'on a des textes un peu détournés. On a, par exemple, un médecin qui s'appelle Laurent Joubert, qui écrit tout un livre sur les erreurs populaires, pour nous dire, voilà, tout ce que pensent les gens qui est absurde au point de vue de la théorie médicale de l'époque. Donc on est au XVIe siècle. Et Joubert nous dit, mais quand je vais à table, je suis invité en ville, à chaque fois, les gens me posent des questions, mais qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que ça, c'est bon pour ma santé? Est-ce que je dois manger plusieurs fois par jour? Est-ce que je dois manger un nombre, tel et tel nombre de plats ou pas? Donc, il dit, j'en peux plus, je refuse désormais les dîners en ville, c'est insupportable. Mais ça veut dire qu'il y a un intérêt, qu'il y a peut-être un savoir, des conceptions qu'on ignore, mais qu'on n'arrive pas à toucher. Pendant un temps, on a pensé que les proverbes nous renseignerait sur la sagesse populaire. Mais en fait, c'est un peu illusoire, parce que c'est souvent des textes composés, recomposés par un milieu savant. Donc, ce n'est pas toujours évident à connaître. Mais le médecin, en tout cas, lui, il est obligé de tenir compte du malade. Si le malade refuse son régime, il y a Jacques Despards qui nous explique ça au XVe siècle. Il nous dit, voilà, en cas de fracture, je recommande ceci ou cela. Enfin, c'est Avicenne, le canon d'Avicenne, qui recommande ceci ou cela. Et lui, il fait le commentaire. Il dit, bon, j'ai essayé d'appliquer ça auprès des malades, mais ça marche pas. Et c'est surtout leurs femmes, en fait, qui sont tout à fait contre, parce qu'elles pensent qu'on va pas faire de régime particulier parce qu'on a une fracture. C'est pas le bon sens, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui se pose, mais pour les médecins, même en cas de fracture, les médecins de l'ancienne diététique, il faut faire un régime aussi.
Bah oui, parce qu'il faut manger des laitages, ça renforce les os. Mais voyez, moi,
aujourd'hui, on dirait ça.
On dirait ça.
On dirait ça. On le dit d'ailleurs.
C'est pour montrer combien nous sommes le fruit de cette longue histoire. À partir de quel moment, Bruno Loriot, voyez-vous apparaître la diététique sous son aspect scientifique? Parce que vous nous l'avez bien expliqué, la compréhension de la digestion avec l'idée que non, ce n'est pas mécanique, il y a quelque chose d'acide à l'intérieur de chaleur, bon, très bien. Mais en parallèle, le discours sur la recommandation pour les aliments se poursuit. On est dans la même période, 18e siècle, 19e siècle.
Alors oui, ça, la réflexion sur la digestion va amener, j'ai parlé du suc gastrique par exemple, progressivement les médecins, pas que d'ailleurs, hein, d'autres personnes, hein, donc des chimistes, des ce qu'on appellera les physiologistes à un moment, donc plutôt qui relèvent du domaine de la biologie d'une certaine manière, et puis aussi même les agronomes, hein, un petit peu ensemble, les uns s'influençant influençant les autres, et ça va les amener à réfléchir à une alimentation où le plus petit élément, le plus petit commun dénominateur, c'est pas le plat, c'est pas le mets, c'est même pas l'aliment, c'est en dessous de l'aliment ce qui constitue l'aliment. Donc ce qu'on va finir par appeler le nutriment, qui est un terme qui existait déjà, mais qu'on va ressusciter, hein. Et donc le terme de nutriment, ce qui nourrit le corps, mais ce qui nourrit le corps, c'est pas l'aliment, c'est quelque chose à l'intérieur de l'aliment. Et ce quelque chose, bah, c'est un élément chimique, une composition chimique, donc qu'on va finir par appeler glucides, protides, lipides. Il y a des termes différents selon les langues, on est bien d'accord. Enfin, c'est ce que j'appelle la sainte trinité des macronutriments. Et puis après, à la fin du 19e siècle, on va trouver d'autres nutriments qui n'ont pas besoin d'être en quantité importante, qui peuvent être en petite quantité, mais qui n'en sont pas moins nécessaires à la vie, donc les vitamines, hein, qui vont également se mettre en place. Donc tout cet appareillage extrêmement important, c'est l'idée que le fonctionnement n'obéit plus d'une certaine manière à toutes ces combinaisons incessante d'aliments qui peut répondre au fond à une sorte de ration moyenne comportant le nombre nécessaire de macronutriments, la quantité nécessaire de macronutriments et la quantité nécessaire de micronutriments. Étant bien entendu, mais ça c'est une autre question, qu'il faut aussi atteindre une certaine quantité globale de nourriture qui est mesurée par un nouvel indicateur, qui est la calorie, hein, qui mesure donc d'une certaine manière l'énergie. Et cette calorie va servir ensuite d'instrument de mesure et de comparaison pour établir des régimes nécessaires, non pas à tel ou tel individu, mais à telle ou telle catégorie de la population. C'est pas tout à fait la même chose, c'est beaucoup plus large et c'est beaucoup plus collectif. Donc si vous voulez, de mon point de vue, on passe du qualitatif et individuel au quantitatif et collectif. C'est ça un petit peu, je suis pas le premier à avoir remarqué ça, mais bon, voilà, c'est ça un petit peu le changement. C'est là où la bascule se fait progressivement entre, mettons, 1750 et la fin du 19e siècle, entre ce que j'appellerais l'ancienne diététique et puis la nutrition. Et du coup, tout ce qui est un petit peu individuel, individualisation maximale, c'est un peu sur les marges désormais. Les médecins ne s'y intéressent plus. C'est plutôt de l'ordre un peu de l'anecdotique, voire un petit peu du marginal, d'une certaine manière.
Oui, c'est très important ce que vous nous dites là, et c'est même très fort. Nous comprenons ce souci qu'il pouvait y avoir pour un médecin de soigner un individu, homme, femme, selon l'âge, la condition sociale, son environnement, à, alors, tous les hommes et ou toutes les femmes de tel groupe social éventuellement, mais surtout de tel âge, doivent recevoir tant de calories qui se décomposent en tant de nutriments, protéines, glucides. C'est cela. Donc, on voit bien ici que le regard porté sur l'individu est moindre, alors que dans le même temps, on assiste à une individualisation très nette de la société avec des gens qui ont conscience d'eux-mêmes. C'est un paradoxe.
Oui, c'est un paradoxe. Alors, il ne faut pas oublier que les médecins, ils continuent à soigner des individus, hein, eux-mêmes. Ils continuent à soigner des individus. Donc, ils ont affaire aux individus. Donc, ils voient bien que, bah, il peut y avoir, ça marche plus ou moins. Mais, le régime alimentaire, c'est-à-dire la manière de réguler précisément son alimentation, est moins centrale, du coup. Hein, voyez? Puisqu'au fond, ce qui compte, c'est plus, si je peux me permettre, plus la ration que le régime. Voyez?
C'est vrai que c'est pas la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose. Et la ration, c'est fondamental dans tous les organismes collectifs qui existent au 19e siècle. Donc voilà, qui se multiplient depuis la caserne jusqu'à l'école, en passant par l'hôpital, la prison. Voilà.
Ah, et puis c'est là où on n'a pas le choix.
Hein. On n'a pas le choix. Alors que là, on peut appliquer.
On peut appliquer, on impose une ration alimentaire, alors qu'au restaurant, il y a le choix.
Avec le poisson, c'est toujours un légume à la con, riz ou endive. Vous avez remarqué ça? Quand on prend poisson, on a une connerie avec une patate ou... En général, on regrette. Ah, ça le fait à tout le monde.
Ah, puis il y a plus d'ambiance dans un restaurant à viande, les gens sont plus gais.
Dans les restaurants à poisson, il y a que des malades. Ils ont le teint blanc comme des filets de merlan.
Mais attention, dans la viande, il y a du cholestérol.
Dans le poisson, il y a du mazout.
Ah, c'est pas grave ça, le mazout, c'est biodégradable.
Eh ben voilà, tout simplement, Chevalier Las Palès, c'est vous qui voyez, Bruno Loriot, vous nous avez dit combien, en tant qu'historien, il est difficile d'atteindre cette parole qui n'a pas laissé de traces, cette parole souvent populaire, et que la trace qui reste au sujet de la diététique, c'est le discours médical. C'est une parole souvent liée à l'élite. Ben là, avec l'humour, par exemple, on a cette parole au plus proche des gens. Et l'idée évoquée dans ce sketch que voilà, le poisson et les légumes, c'est pour les malades, c'est aussi cette très longue histoire de la diététique qui relie le bouillon aux malades, peut-être du XVIIe siècle.
Oui. Alors, sauf que c'est pas forcément un bouillon de poisson, hein. C'est plutôt un bouillon
de viande.
De viande, en l'occurrence, hein, plutôt. De poulet, de poule, voilà, qui est justement modérément chaud et humide, donc parfait pour les gens qui recouvrent de maladies. En effet, à l'époque contemporaine, je ne sais pas si on peut aller déjà à l'époque contemporaine.
Venez, nous y sommes.
Le discours qui n'est pas médical. Alors déjà au 19e siècle, parmi les gens qui parlent de diététique, d'alimentation, de nutrition, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas que des médecins. Hein. Il y a d'autres catégories que j'ai citées, donc qui ont une importance assez considérable. Les agronomes, par exemple, puisque c'est pour d'abord réguler l'alimentation des animaux qui servent eux-mêmes à l'alimentation qu'il a fallu calculé précisément. Il y a un très bon livre qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle « Les Comptes du Salut », qui montre ça de manière très nette. Mais que pensent les gens eux-mêmes ? En effet, aujourd'hui, on a en plus, si vous voulez, les sondages, les enquêtes. On a aussi, et c'est ça un petit peu la nouveauté, là dans la période qui est le XXe siècle, on va dire, à partir du XXe siècle, on a la multiplication des instances de prescription, on dirait ça comme ça aujourd'hui, des prescripteurs. Hein. Donc, y a les médecins, mais plus seulement eux, il y a l'État. L'État qui a en charge toutes ces institutions collectives, d'une certaine manière, et donc qui doit absolument avoir une politique de nutritionnelle qu'on voit très clairement apparaître aux États-Unis au XIXe siècle à travers la question de procurer des aliments sains et pour ça donc édicter des normes. Alors il y avait déjà des normes pour des aliments sains, mais c'était des normes un petit peu locales, c'était pas des normes nationales ou internationales. Les calories, c'est quelque chose qui va être utilisé par les instances internationales pour définir des normes à atteindre. Et à la fin, ce sera des normes à ne pas dépasser. Il y aura un peu un renversement aujourd'hui. Et puis, vous avez tous les médias. Et les médias, c'est les journaux assez tôt, c'est qui s'intéressent à ces questions-là, c'est la télévision. Et c'est aujourd'hui les réseaux sociaux. Et tous ces éléments constituent d'une certaine manière ce que j'ai appelé dans le livre, mais je ne suis pas le seul à l'avoir dit, une cacophonie diététique, c'est-à-dire une multiplication des prescriptions contradictoires, puisque chacun s'estime en droit de pouvoir dire ce qui est bon pour la santé, le corps humain et mon propre corps, d'une certaine manière. Tout ça entretient auprès mangeurs des prescriptions contradictoires, des injonctions contradictoires qui le mettent dans un état d'angoisse extrême. Et l'alimentation, c'est le vecteur de l'angoisse important parce que c'est l'incorporation, c'est ce qu'on met dans son propre corps. Donc, de tout moment, ça constitue un problème, évidemment, pour le mangeur. Est-ce que faut pas imaginer que quel que soit le mangeur, il ne se pose pas la question de savoir si ce qu'il ingère est bon. Bien entendu qu'il se la pose.
Ah oui, mais c'est vrai, on se la pose. Et c'est vraiment cette réflexion qui mérite un regard sur la longue durée. Vous évoquiez les Comptes du Salut, quantifier et réformer l'alimentation au XIXe siècle. C'est l'ouvrage de Thomas de Pecquerc, publié aux presses universitaires François Rabelais. Dans cette longue réflexion que nous avons aujourd'hui avec vous, Bruno Loriou, sur l'histoire de la diététique, nous saisissons combien les acteurs sont multiples. Vous l'avez évoqué, les diététiciens, bien sûr, qui apparaissent, qui se constitue, qui s'autonomise et dans le même temps,
c'est ça,
les médias.
Si vous déraillez, si vous savez plus du tout comment vous nourrir, etc., il faut un certain régime et il faut un certain guide. Mais mettez-vous devant 100 grammes de pain, 15 grammes de beurre, puis vous dites c'est ma ration, puis vous allez le manger. Et vous allez voir comme vous serez malheureux. Le compas avec lequel vous mesurez, mais il est dans l'œil. L'obèse, celui qui aime bien manger, il trouve que les rations sont toutes petites. Celui qui n'a pas faim, il trouve que les rations sont énormes. La mesure, elle est en nous. Alors moi, je n'aime pas, d'abord parce que c'est pontifiant et professoral de dire « voilà comment il faut ». En fait, à travers ce qu'on mange, n'est-ce pas, c'est toute la création de son être et de son milieu social et de sa société, toute sa politique qui se bâtit.
Il n'y a pas de règle simple du savoir-manger.
Non, il y a des garde-fous, n'est-ce pas. Il y a, si vous voulez, la définition du besoin la plus sage à l'heure actuelle, c'est ce qu'il est décent de faire dans une société donnée à un moment donné. Et qui diffèrent absolument suivant les individus. Vous avez des gens qui ont besoin de manger beaucoup et qui sont maigres avec ça. Vous avez des gens qui, avec très peu, sont gros. Par conséquent, à chacun de trouver son assiette.
Nous étions ici en 1973 dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel qui recevait Jean Trémolière, médecin, mais diététicien, on peut le dire ainsi.
Ah oui, nutritionniste en tout cas, c'est le grand... c'est le grand maître de la nutrition, de la science nutritionnelle française dans les années d'après-guerre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là sa perspective extrêmement large, attentive aux sciences humaines et sociales, c'est que en fait, il n'a pas toujours été comme ça, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la première fois où on le voit apparaître dans l'histoire de la nutrition, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, quand une équipe américaine est envoyée en Crète pour étudier l'alimentation de la population crétoise. C'est une équipe donc qui est formée d'une certaine manière par les critères de la nutrition américaine qui sont alors dominants. Il faut voir que depuis le 19e siècle, les Américains ont imposé comme ça une série de normes. Et donc, dans leur idée, les Crétois, ils devraient être malades, ils devraient mourir très tôt parce qu'ils ne mangent pas beaucoup de viande, ou presque pas du tout, ils ne boivent pas de lait. Au lieu de manger du beurre, ils consomment de l'huile d'olive. Bref, le régime crétois, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la diète méditerranéenne. Et ils se rendent compte que, eh ben, ils sont en pleine forme, ils vivent très vieux, ils sont en bien meilleure santé que leurs collègues américains. Et donc, pour des gens comme Trémolière, ça va être une sorte de révolution. Il va revenir, il va s'occuper de la nutrition et il va avoir une position extrêmement ouverte en disant « tenons compte de la culture ». C'est un point essentiel, non pas du niveau culturel, mais de la culture qui vous forme et qui modèle vos goûts, vos préférences et vos pratiques. Si on ne fait pas ça, on ne va pas s'en sortir. Et ce qu'il dit, c'est ça. Il dit que manger, c'est une affaire culturelle et que ce n'est pas uniquement une question quantitative. Il est mort un peu prématurément et ensuite, je crois qu'il y a eu, on a un petit peu oublié globalement un peu sa leçon. Aujourd'hui, on vous donne tout de suite des batteries de chiffres à voir, à suivre. Et il faut peut-être revenir à une position plus ouverte et plus compréhensive, à mon avis. Mais bon.
Oui, vous nous donnez des conseils. Jean Trémolière est décédé en 1976 avec ce regard porté là aussi sur la culture face au nombre de calories ingurgitées par jour réparties en temps de protéines. Et puis, il y a ces choix de vie. Vous l'évoquez, la culture, c'est important. Et puis, il y a la culture que l'on se construit. C'est le cas dans un étrange petit village dans le Lot.
À la page régionale, Miers dans le Lot, l'originalité de cette cité pavillonnaire qu'a visité Jean-Noël Deléage, c'est qu'elle est occupée uniquement par des végétariens. Au menu, ni viande, ni poisson, Miers accueille des amateurs de légumes verts venus de tous les coins de France, comme Albertine Le Goff, 69 ans, qui a quitté sa Bretagne pour prendre sa retraite au vert.
Ça m'a aussi beaucoup poussée à venir, parce qu'au moins je serai avec des gens qui me comprennent. Parce que là-bas, en Bretagne, on ne me comprenait pas.
Comment ça ?
Ah, ben, il faut être avec des végétariens, vous savez, pour être compris. Je me suis trouvée très bien.
J'ai appris qu'une de vos amies, Madame Gaillot, là, fait le jardin.
Oui, 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 elle est formidable.
Qu'est-ce qu'elle fait, des poireaux ?
Elle bêche. Elle bêche la terre. Hein, elle retourne la terre. Elle sème, elle récolte, elle fait tout. Elle enlève les mauvaises herbes. Elle fait tout comme un vrai jardinier. Il faudrait la voir, vous savez, à l'œuvre.
Il n'y a pas un boucher, là, en ville ? Il doit vous regarder d'une drôle de façon.
Non, pas du tout. Hein ? Non. Monsieur Thérou, je n'ai pas peur de dire son nom.
Mais il ne vous en veut pas ?
Oh non, j'étais très bien reçue.
Ah bah super, elle a été très bien reçue. Nous étions en 1980 dans Interactualité. Bruno Lauriou, nous avons par exemple ici, avec le choix végétarien, là, une possibilité qui s'ouvre, mais toujours dans l'idée que cela doit s'adapter à des individus. On ne peut pas appliquer une règle stricte qui correspondrait au sexe, enfin au genre, à l'âge, et puis globalement peut-être à l'état physique, mais pas plus.
Alors, du point de vue du régime végétarien, du point de vue médical, bon ça je ne vais pas trop insister.
Vous êtes historien, vous n'êtes pas médecin.
Voilà, exactement. Ce que je peux dire en revanche, c'est que dans l'histoire de l'alimentation et aussi dans l'histoire de la diététique, il y a constamment une réflexion sur ce que j'appellerais le refus de la viande, avec toute une série de motivations, mais du coup qui constituent un peu d'histoire. La plus ancienne, c'est la motivation éthique. On a ça dès l'Antiquité, chez les néo-pythagoriciens. Peut-être pas du côté de Pythagore lui-même, mais chez les néo-pythagoriciens, c'est frappant. De quel droit tuons-nous des animaux ? Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette violence que nous exerçons à leur égard ? Voilà. Ça, c'est la motivation éthique. La motivation médicale, qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire, au fond, l'idée que certains médecins disent « Mais attendez, on nous dit que la viande, c'est formidable, mais peut-être que finalement, pas. Peut-être que c'est pas si bon que ça. Peut-être que c'est mauvais, en tout cas pour certains. Hein. » Donc, et là, on a non seulement Hecke, que j'ai cité tout à l'heure, au XVIIIe siècle, mais avant, au XIVe siècle, il y a un auteur qui s'appelle Arnaud de Vineuve, j'en ai déjà parlé, qui est un immense médecin, un personnage considérable. C'est le médecin du roi d'Aragon, c'est le médecin du pape, c'est quelqu'un qui a des idées en théologie d'ailleurs. Bon, bah, bref. Et là, il nous dit, mais attendez, à propos des chartreux, donc des adeptes de Saint-Bruno, qui estiment que on peut se passer totalement de viande, on doit se passer totalement de viande. Pas de poisson, attention, hein, de viande. Il nous dit, on les accuse, ces chartreux, de provoquer la mort de leur frère malade, parce que en cas de maladie, il faut absolument manger de la viande. Or, ils ne veulent pas manger de la viande. Et Arnaud Vineuve nous dit, mais ils sont en pleine forme. Ils vivent très vieux. Donc, c'est bien la preuve que ne pas manger de viande, ça peut être aussi bon pour la santé. Ça, c'est l'argument médical. L'argument le plus récent en matière de refus de la viande, de rejet de la viande, c'est l'argument environnemental, hein, qu'on voit apparaître très lentement. À ma connaissance, le premier à en parler, c'est Reclus, Élisée Reclus, l'anarchiste végétarien aussi, hein, d'ailleurs. Au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, et c'est quelque chose qui devient un petit peu central aujourd'hui. Donc ça a toujours existé, c'est toujours un peu en arrière, un peu caché, c'est pas montré, c'est pas central, mais de temps en temps, on le voit ressurgir.
Et puis dans cette histoire, Bruno Loriot, une histoire de la diététique d'Hippocrate au Nutri-Score, vous publiez ça aux éditions du CNRS, il y a le temps long qui est important, et puis il y a la géographie, parce que nous l'évoquons à travers le temps, les influences, alors venues du monde arabe, mais on pourrait aller plus loin. Est-ce que cela a une incidence sur notre manière de concevoir aujourd'hui la diététique, tout ce qui se passe ailleurs, en Asie, en Amérique, toutes ces découvertes?
Oui, alors, ce qui est sûr, c'est que au XIXe siècle, l'influx, alors que avant la science médicale était européenne, si on regarde l'invention de la calorie, ça part de France, ça passe par l'Allemagne, mais ça finit par aboutir aux États-Unis. Donc, à partir du XIXe siècle, c'est les États-Unis qui sont un petit peu le moteur. C'est là qu'il y a des modes. C'est là, par exemple, où, à un moment, il y a des gens qui disent « Eh bien, il faut manger beaucoup de viande. Il faut se méfier des légumes.
Ouais. »
Ah oui, on va ouais. Et puis, en face, vous avez des gens, donc il y a un vrai débat juste avant la guerre de sécession. Donc, oui, ça remonte. Hein. Il y a un début d'industrialisation des États-Unis. Il y en a d'autres qui disent, le révérend Graham, « Ah non, il faut pas manger de viande. » Parce que la viande, c'est pas bon, non seulement c'est pas bon pour le corps, mais c'est pas bon pour l'esprit, s'il faut faire pénitence, etc. Puis après, on va voir des gens qui vont vous dire... Donc il y a un personnage très intéressant qui s'appelle Ansel Case, au XXe siècle, qui est quelqu'un qui le premier va faire un lien... Les premiers, c'était en fait les compagnies d'assurance, mais bon, peu importe. Il va faire le lien entre les maladies cardiovasculaires qui augmentent brusquement et une alimentation trop riche en graisse. Alors au départ, on dit en sel, puis après on va dire en graisse. Hein ? Et le premier à dire, il faudrait qu'on ait un régime moins riche en Grèce, d'où l'intérêt qu'il va y avoir pour ce fameux régime crétois.
C'est pas loin de la Grèce, pourtant.
Voilà, et au régime... oui. régime méditerranéen, voilà, ça, c'est ça. Donc, il y a eu des influx. Et puis après, aux États-Unis aussi, il y a un autre médecin, Yudnov, qui, faisant des conférences, va dire, mais vous savez, en fait, il fait des conférences pour l'industrie laitière. Donc, il dit, le gras, non, c'est pas grave, le gras. Le risque majeur, c'est le sucre. Donc, c'est l'ennemi, voilà, le sucre. Et ça reste encore aujourd'hui. D'ailleurs, le sucre, c'est intéressant. Il y a eu un renversement complet, hein. Au Moyen-Âge, c'est un aliment formidable. À partir de l'époque moderne, on commence à se dire c'est pas très bon pour les caries, par exemple. Et puis, à l'époque contemporaine, c'est carrément l'ennemi numéro un. Donc, les influx, ils viennent des États-Unis. On peut dire ça, véritablement, on peut dire ça. Aujourd'hui, c'est assez clair.
Et puis, cette histoire de la manière de manger des aliments consommés est une histoire mondiale, on le sait bien, et toutes ces influences sont diverses avec la découverte d'autres pratiques.
Ah oui.
On ne peut pas parler de diététique en appliquant des schémas occidentaux sur la manière de se comporter, je ne sais pas moi, en Chine. Mais
oui.
Là aussi, en Chine, le lien est très fort. On ne va pas le développer aujourd'hui, mais entre la santé et ce que nous mangeons, comme
oui,
une évidence.
Oui. Ça ressemble beaucoup à l'ancienne diététique par certains côtés, oui.
C'est vrai, oui.
Un suréquilibre. Bon, c'est le cas aussi pour la diététique indienne. Mais là, on sait qu'il y a eu des influences de l'Inde sur la médecine arabe et donc sur notre médecine ancienne, sur notre ancienne diététique.
Une histoire de la diététique d'Hippocrate au Nutri-Score. Donc, le Nutri-Score, globalement, c'est bien pour savoir où on en est avec des produits que nous achetons qui sont transformés. Mais après, c'est sans doute le rappel que nous sommes des individus uniques et que
oui, oui.
Bon, faut pas appliquer des règles qui conviendraient à tout le monde et qu'on nous présente très facilement dans les médias ou les réseaux sociaux.
Ah ben, pour moi, le Nutri-Score, c'est très utile, hein. C'est très utile,
hein,
oui. Parce que ça permet, dans une catégorie d'aliments, par exemple les céréales, du petit déjeuner, déterminer ceux qui ont beaucoup de sucre et ceux qui n'en ont pas beaucoup.
Ben
c'est
voilà.
Ça un peu le point essentiel.
Bon, bah écoutez, merci vivement en tout cas à vous d'être venu, de nous avoir donné des indications sur notre présent, Bruno Loriou. Si on veut croiser le docteur Eke, qui a été plusieurs fois cité dans l'émission, il y a l'émission du cours de l'histoire, crise de foie et querelles intestines, histoire d'un débat sur l'estomac, sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Quant à votre ouvrage, une histoire de la diététique d'Hippocrate au Nutri-Score, c'est aux éditions du CNRS. Merci beaucoup. Évoquer le prochain épisode du cours de l'histoire. Bah écoutez, là, va falloir mettre de l'huile, hein, défendre son bout de gras, une histoire coloniale et politique. Beaucoup d'huile.
Elle fait la cuisine, Monique ?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle te fait à manger ?
De l'huile.
Est-ce que tu sais, Odeline, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande ?
Vider les truites.
Vider les truites ! C'est pas banal.
Comme ça, je pourrais en manger plein.
Avec des frites ?
Non, avec de l'huile.
Valérie Lemercier avec Les Nuls dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique Noé Chaban, émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est une émission à podcaster, à écouter sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.